Alors, toute la famille de Jacob se trouve en Égypte. Il y a des années qui passent, des dizaines d'années. Et les 70 personnes de la famille de Jacob, la Bible nous précise qu'il y en a 70 qui sont venus de Palestine jusqu'en Égypte, eh bien, ils deviennent 700, 7000, 70 000, ils se multiplient. Et attention, il ne s'agit pas seulement de 3-4 ans, il s'agit de 150, 200, 250 ans, c'est sur une très grande période. Et ils deviennent très très nombreux. Le pharaon, c'est-à-dire le roi, l'empereur, l'empereur d'Égypte ou le roi d'Égypte, on l'appelle pharaon. Donc le pharaon, le roi d'Égypte, qui connaissait Joseph, il est mort depuis longtemps. Et le pharaon, l'empereur d'Égypte d'aujourd'hui, il commence à s'inquiéter. Il s'inquiète parce que il voit que les fils d'Israël. Alors, j'explique juste un petit peu, fils d'Israël. Vous vous rappelez que Jacob, on revient un peu en arrière, vous vous rappelez que Jacob, un soir, voilà qu'un homme arrive près de lui et qu'ils se battent. Et ils se battent toute la nuit. Jacob se bat avec un autre homme. On ne sait pas d'où vient cet homme. On comprend à la fin du texte qu'il s'agit de l'ange de Dieu ou même de Dieu lui-même. Et à la fin, Jacob est vaincu. Il est vaincu parce que l'homme qui combat avec lui, qui est l'ange du Seigneur, c'est-à-dire le messager de Dieu, lui donne un coup à la hanche. Et alors, hop, ça fait mal à Jacob, non seulement ça lui fait mal, mais ça le déboîte sa hanche et il devient boiteux. Et Dieu lui dit, eh bien dorénavant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Israël, ça veut dire Dieu s'est montré fort. Pendant cette nuit-là, Jacob a compris que Dieu était plus que lui. Il a compris ça à travers un combat qu'il a dû vivre en rêve, peu importe comment. Il a vécu une expérience spirituelle très très forte où il y a eu comme une lutte entre lui, Jacob, et Dieu a été plus fort. Et il a changé de nom. Il est passé de Jacob à Israël, qui veut dire Dieu s'est montré fort. Et depuis, on appelle le peuple hébreu, avant on l'appelait le peuple hébreu, et maintenant, à partir de Jacob, on parle du peuple d'Israël ou bien des fils d'Israël. Le plus souvent dans la Bible, on emploie le terme « fils d'Israël ». C'est comme si on dit « les fils et les filles de France ». Oui. Oui. Les fils et les filles de France, ça veut dire ben, tous les habitants de la France. Voilà. Et ben là, « fils d'Israël », c'est tous ceux qui appartiennent à la famille de Jacob. Et la famille de Jacob, elle est devenue un grand peuple qui se trouve en Égypte, extrêmement nombreux. Et l'empereur, le pharaon, se dit, oh là là, et les fils d'Israël, ils commencent à être un peu nombreux. Et si jamais ils allaient être plus nombreux que les Égyptiens? Alors, il faut trouver une solution à ce danger. Deux solutions sont trouvées par l'empereur. Première solution, on va les mettre au travail. On va les exploiter. On va les obliger à travailler. On va leur faire construire deux villes. Donc, on nous dit exactement même le nom des villes, Pithom et Ramsès. On va les faire construire deux villes. Mais ça ne va pas être des ouvriers qui vont sur les chantiers et puis qu'on paye. Ça va être des esclaves. C'est-à-dire des gens qu'on ne paye pas, mais qu'on opprime. On leur donne juste de quoi manger pour qu'ils puissent travailler. Première chose, on va les faire travailler. Pas pour eux-mêmes, hein, pour l'Égypte. Mais ça n'empêche pas de faire des enfants, de travailler. Donc, deuxième solution. Oui. La première solution, on met en esclavage. Comme ça n'empêche évidemment pas de faire des enfants, deuxième solution, l'empereur s'adresse aux sages-femmes. Et il dit aux sages-femmes, on nous dit même le nom des sages-femmes, il y en a une qui s'appelle Chifra et l'autre Poua. Sans doute il y avait plus que deux sages-femmes en Égypte à l'époque, mais on nous donne deux noms, hein, l'une qui s'appelle Chifra et l'autre Poua. C'est au premier livre de l'Exode et c'est au verset 15. Donc, il s'adresse aux sages-femmes et il leur dit, eh bien écoutez, lorsque vous allez aider les femmes d'Israël à accoucher, vous ferez attention au sexe du bébé.
Ah bon ?
Et tous les garçons, vous les tuez. Et les filles, vous les laissez vivre. Vous allez me dire, oui, mais ça n'empêchera pas forcément qu'il y ait des enfants, puisque les femmes, elles donneront des enfants. Oui, seulement, elles seront mariées à des Égyptiens, et les enfants seront égyptiens, et ne seront pas fils d'Israël. Donc ça permettra de grandir le peuple égyptien, et d'affaiblir les fils d'Israël qui finalement ne seront plus rien. Mais les deux sages-femmes, sans doute beaucoup plus nombreuses que deux, hein, mais les deux sages-femmes, elles ne veulent pas de ça. Alors elles ne font rien. Et on leur en fait le reproche. On leur dit, mais pourquoi vous ne tuez pas les bébés ? Ils disent, mais c'est que les femmes des fils d'Israël sont beaucoup plus fortes que les femmes égyptiennes. Et lorsqu'on nous appelle pour les aider, elles ont déjà accouché. Donc c'est trop tard. C'est trop tard, on ne peut plus. Elles ont sauvé leur fils, elles les ont cachés, et voilà. Donc les deux femmes, les deux sages-femmes, elles se sont débrouillées comme elles ont pu, elles ont fait de la résistance. Mais le pharaon, le roi d'Égypte, il dit, mais non, c'est que moi je veux vraiment trouver une solution. Alors là, il donne un ordre, c'est que tous les bébés masculins, mâles, tous les petits garçons seront jetés au fleuve et les filles resteront en vie. Et là, pas au moment de la naissance, c'est n'importe quand. Et voilà, deux solutions pour exterminer les fils d'Israël. C'est à ce moment-là où une femme qui se marie à un monsieur de la tribu de Lévi, peu importe, on ne sait pas le nom de la dame, cette dame met au monde un petit garçon. Elle veut le sauver. Elle le cache pendant 3 mois. Elle le cache pendant 3 mois. Elle ne peut pas le cacher plus de 3 mois. Vous savez, aujourd'hui, essayez de cacher un bébé. Pas facile de cacher un bébé, parce que la particularité du bébé, c'est que si vous lui dites de se taire, il ne se tait pas forcément. Donc, déjà, elle l'a caché pendant 3 mois, c'est déjà une prouesse. Elle le cache 3 mois, et au bout de 3 mois, eh ben elle dit, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je vais faire une caisse, une corbeille. En fait, le mot, c'est vraiment une caisse. C'est le même mot, c'est intéressant d'ailleurs, c'est le même mot qui est utilisé que pour l'arche de Noé. Hein? Or, l'arche de Noé, elle sauve des eaux, et la caisse dans laquelle sera mis l'enfant, qui s'appellera Moïse, dans laquelle se met l'enfant, il va sauver des eaux, le petit garçon. C'est le même mot. Ce mot, il est employé seulement deux fois dans le Premier Testament. Pour l'arche de Noé et pour la caisse de ou le couffin de Moïse. Donc, cette dame, elle, avec sa fille, elles prennent du papyrus et elles créent une caisse et elles enduisent ça d'un... On nous dit exactement... je vais vous dire ça. Oui, quelque chose comme ça. Voilà, c'est une feuille de papyrus, une caisse en papyrus. On l'enduit de bitume et de poids. Ça pour que ce soit imperméabilisé. Donc, on imperméabilise. Voilà. Enfin, la femme imperméabilise avec sa fille. Sa fille, évidemment, elle est en vie, puisque c'est une fille, elle a le droit à la vie, selon l'empereur. Et là, on dépose le petit garçon, le met sur le Nil. Le Nil, c'est le grand fleuve qui traverse l'Égypte. Et puis, la fille, la jeune fille, la sœur du petit enfant, elle se met derrière les roseaux pour voir ce qui va arriver à l'enfant. Il faut imaginer, le texte nous décrit exactement ça. Vous imaginez la sœur, hein, il peut avoir 15 ans ou 20 ans, regarde qu'est-ce qui va arriver à son petit frère, et voilà, là, vous voyez, la caisse qui passe les tourbillons. Et voilà que se promène le long du Nil la sœur, la fille de Pharaon, la princesse, la fille de Pharaon. Et elle voit ça. Elle prend la caisse. Elle regarde ce qu'il y a dedans et elle s'étonne, c'est un bébé. Alors à ce moment-là, la sœur du petit garçon, du bébé, s'approche de la fille de Pharaon. Et elle propose à la fille de Pharaon, vous savez, si vous voulez, je peux trouver une nourrice. Ah, la fille de Pharaon dit, mais oui, très bien, trouvez-moi une nourrice. Et du coup, la fille va voir sa mère et la mère du petit garçon devient la nourrice du petit garçon. Et la fille de Pharaon donne un nom au petit garçon. Elle l'appelle Moshé, c'est-à-dire Moïse. Et Moshé, ça veut dire tirer des eaux. Tirer des eaux. Ça vient d'un verbe qui signifie tirer quelque chose d'eux. Voilà. Je tire quelqu'un du précipice. Je tire quelqu'un du fleuve. Je tire quelqu'un qui est en train de se noyer. Tirer des eaux. On pourrait dire aussi sauver des eaux. Donc, Moïse. Alors, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que Moïse, c'est à la fois le fils d'une femme hébreu, fille d'Israël, et c'est le fils de la fille de Pharaon. Elle est le petit Moïse, il est adopté par la fille de Pharaon. Or, l'adoption, c'est comme aujourd'hui, c'est pas la même loi, c'est pas les mêmes juridictions, il n'y a pas adoption simple, adoption plénière, etc. Mais l'adoption, je veux dire, c'est vraiment le fils de la fille de Pharaon. C'est pas, c'est pas simplement je reçois chez moi ce petit garçon abandonné. Il devient le fils de la fille de Pharaon. Et il est en même temps le fils du peuple d'Israël, du peuple hébreu. C'est important de voir qu'il est les deux à la fois. Et puis il grandit à la cour de Pharaon. Là, la Bible ne nous dit rien. On imagine que simplement, voilà, on dirait aujourd'hui il va à l'école. Enfin bref, il apprend ce que tout prince doit apprendre, car il est devenu un prince d'Égypte. Et puis quand il est un peu plus âgé, quand il devient un jeune homme, la Bible nous dit, il sort. Il nous dit exactement, en ces jours-là, Moïse, qui avait grandi, sortit vers ses frères et vit ce qu'était leur corvée, c'est-à-dire leur travail, mais leur travail pénible, pas leur métier ou leur corvée, vous voyez, quelque chose qui est pénible, leur esclavage. Donc il sort vers ses frères. C'est le prince d'Égypte, Moïse, fils de la fille de Pharaon, mais il sort vers ses frères. Vous voyez, cette double appartenance. Il sort vers ses frères. Et il va se rendre compte sur place, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Quelle est leur situation? Et alors il est scandalisé. Il voit un garde qui est en train de maltraiter un esclave. Il est tellement scandalisé, heurté, bouleversé, que il tue le garde. Donc Moïse tue le garde. Le garde, c'est un Égyptien. Il tue le garde et il le cache sous le sable. Il frappa l'Égyptien et le dissimula dans le sable. Je n'invente rien, hein, tout est dans le texte. Je raconte le texte. Donc il le cache dans le sable. Et puis, voilà, il rentre chez lui. Et le lendemain, comme il a été tellement frappé par tout ce qu'il a vu, il a voulu retourner le lendemain pour continuer à voir de plus près ce que vivaient ses frères. Le lendemain, il se retrouve sur le chantier. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un fils d'Israël qui se bat avec un autre fils d'Israël. Et là, il dit, mais c'est pas possible. Vous n'allez pas vous battre entre vous. Donc, il veut les séparer. Et à ce moment-là, il y a un des copains qui se trouve à côté qui dit, ah mais dis donc, tu vas faire la même chose que ce que tu as fait hier, tu vas en tuer un. Alors, Moïse se dit, oh là là, ce que j'ai fait hier, les gens le savent. Car la Bible nous avait raconté sur ce qui s'était passé hier, s'étant tourné de tous côtés, Moïse, voyant qu'il n'y avait personne, frappa l'Égyptien et le dissimula dans le sable. Donc Moïse, il croyait que personne ne l'avait vu. Vous voyez, hein? Moïse, il voit que, il regarde, il n'y a personne, je tue l'Égyptien, je le dissimule dans le sable, ni vu ni connu. Ouais, mais le lendemain, il essaie de séparer deux compatriotes, deux fils d'Israël, et là, il y en a un autre des copains qui dit, « Ah, mais tu vas faire comme hier ?» Moïse se dit, « Oh là là, mais finalement, ça s'est su. » Donc, il a peur. Et cette histoire, l'histoire de la veille, l'histoire du meurtre de l'Égyptien, que Moïse a tué l'Égyptien, c'est venu aux oreilles de Pharaon. Le Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Donc vous voyez, ça va très mal. C'est-à-dire que le Pharaon, il dit, bah, attends, voilà que j'ai un prince dans mon palais qui tue les gardes égyptiens. Donc il cherche à tuer Moïse. Moïse a peur, il fiche le camp et il va dans le désert de Madian, à 400, 500, 600 kilomètres de là. Il part. Il arrive au désert de Madian, donc c'est un désert, Il arrive, et là il s'assied auprès d'un puits. Le puits, dans le Premier Testament et dans le Nouveau Testament, c'est très important. C'est le lieu de la rencontre. Déjà dans le livre de la Genèse, mais on n'en a pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout. Il faudrait des semaines entières pour parler de tout. Hein. Mais déjà dans le livre de la Genèse, tous les mariages se font autour du puits. Le puits, pourquoi est-ce que les mariages se font autour du puits? Parce que le puits, c'est là où on trouve les femmes. Pourquoi on trouve les femmes auprès des puits? Parce que les femmes vont chercher l'eau. Et donc, si vous voulez trouver une femme, si vous voulez trouver une belle fille, eh ben vous allez auprès d'un puits, vous êtes sûr d'en trouver. Restez quelques heures auprès du puits et vous avez toutes les belles filles du pays qui arrivent parce qu'elles viennent puiser l'eau. Elles ne puisent pas l'eau seulement pour boire ou pour donner à boire à leur famille, elles puisent l'eau pour les troupeaux. Et donc, elles restent longtemps. Elles ne prennent pas seulement une cruche, elles prennent des dizaines de cruches parce qu'il faut faire boire les troupeaux. N'oublions pas qu'on est dans un pays chaud et que donc il faut beaucoup d'eau.
Parce que moi j'ai vu le film et je l'ai vu et revu, je le montre à mes enfants et tout. En fait, c'est l'histoire de Yul Brynner, enfin, c'est du roman ça, enfin, je veux dire ça.
Ah oui?
Ah oui, parce qu'il y a Yul Brynner là-dedans qui joue.
Ah oui, oui, oui.
Et donc c'est là l'histoire avec Pharaon, là, par rapport à sa fille, il y a quelque chose qui cloche là. Ah, parce que moi je pensais vraiment que c'est dans le film des commandements,
oui.
que c'était vraiment tiré de la Bible, alors finalement il y a quelque chose qui va pas.
Ah mais le film Les Dix Commandements, c'est un roman à partir de la Bible, oui.
Oui, c'est un roman, donc c'est pas vraiment des...
Ah non, là je raconte la Bible, je raconte pas le film.
Oui, c'est pour ça que je suis
oui, oui.
Préféré au film.
Ah oui. Non, non, le film c'est un film. Le rôle du cinéaste, c'est pas de raconter la Bible, c'est de raconter une belle histoire à partir de la Bible. Voilà. Donc là c'est, il s'agit bien de la Bible. Là. Alors là, il se trouve près d'un puits, et près du puits, eh bien, il y a des femmes, des jeunes femmes, qui arrivent pour puiser pour les troupeaux. Et ce sont... les filles d'un prêtre qui s'appelle Jéthro. En fait, on nous donne trois noms différents du monsieur, mais ça n'a pas d'importance. Jéthro. Et il a sept filles. Et les filles, elles arrivent pour puiser l'eau. Et à ce moment-là, il y a des bergers qui les embêtent. Ou des bergers qui font obstacle à ce qu'elles prennent de l'eau. En fait, vous voyez, il y a un puits. Le puits, c'est un lieu stratégique, c'est-à-dire il n'y a pas des puits partout. Et voilà, une fois que vous êtes au puits, vous pouvez en avoir pour des heures. Donc on imagine que les bergers, ils ont voulu passer avant les femmes. Et à ce moment-là, Moïse, il prend la défense des femmes. Donc, les femmes, elles en parlent à leur père. Et leur père dit, mais il faut le faire venir, c'est-à-dire il faut le remercier. Hein, c'est l'hospitalité, c'est-à-dire ils ont rendu service à mes filles, donc il faut que... Et Moïse, finalement, on ne nous raconte pas beaucoup de détails dans le texte, hein, ça va vite, finalement, le père des filles donne à Moïse une de ses filles en mariage qui s'appelle Sipora. Sipora. Je vous lis le texte tel qu'il est. Le prêtre de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser et remplir les auges, les cruches, pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers vinrent les chasser. Alors Moïse se leva pour les secourir. Et il abreuva leur troupeau. Non seulement il les protège, mais il fait le boulot. Elles revinrent près de leur père, qui leur dit « Pourquoi êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui ? si vous voulez, il a fait le boulot, voilà, hein, il a fait le boulot plus vite que les filles. Donc elles sont revenues plus tôt que d'habitude. Elles dirent, c'est qu'un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. C'est même lui qui a puisé pour nous et qui a abreuvé le troupeau. Le prêtre dit à ses filles, « Mais où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le, qu'il mange. » Ouais, c'est pour le remercier, pas laisser ça. Bon, il dit à ses filles, « Vous n'êtes pas convenable, vous n'êtes pas correct, vous l'avez laissé tomber, il fallait l'amener avec vous pour qu'on puisse le remercier, qu'il mange. » Et Moïse accepta de s'établir près de cet homme qui lui donna Sipora, sa fille. Sipora, la femme donc de Moïse, enfanta un fils, il lui donna le nom de Gershom, qui veut dire « émigré à cet endroit-là ». Donc, il est émigré, voilà. Et voilà notre brave Moïse qui se trouve au pays de Madian, installé, marié, ayant un fils, Gershom, et au service, qui se met au service de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian, et qui va conduire les troupeaux. Pendant ce temps-là, tout continue à aller mal en Égypte pour les fils d'Israël. Et les fils d'Israël n'en peuvent plus, et ils n'en peuvent tellement plus qu'ils n'ont plus qu'une seule chose à faire, ils ne peuvent plus résister, ils ne peuvent plus rouspéter, ils ne peuvent pas se révolter, ils ne peuvent pas, évidemment, tuer leur bourreau, leur maître. Ils peuvent une seule chose, c'est crier vers Dieu. Appeler vers Dieu. Quand il n'y a plus rien, il reste encore Dieu. Donc on peut lui dire. Et on lui dit quoi ? Ben on lui dit ça va pas, ça va mal. Voilà exactement ce qu'ils disent. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël gémirent, le gémissement, la plainte, du fond de la servitude, du fond de l'esclavage. Et ils crièrent. Donc ils gémissent et ils crient. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. Dieu entendit leur plainte. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit, du verbe voir, vit les fils d'Israël, Dieu se rendit compte. Donc voilà, on nous présente donc Dieu, la seule manière de parler de Dieu que nous puissions avoir, nous les humains, c'est comme si c'était un homme. Évidemment, Dieu ne voit pas comme nous voyons chacun. Mais on nous exprime là que Dieu se rend compte, hein, il se rendit compte, Dieu vit les fils d'Israël, il entend la clameur et la plainte. Et donc, voilà, donc tout va mal. On revient à Moïse, je termine par là, et puis on fera la suite la prochaine fois. Je reviens à Moïse, il est en train de faire paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, il est devenu berger. Et il est près d'une montagne, la montagne du Seigneur. Et puis là, tout d'un coup, il aperçoit un buisson qui brûle dans le désert. Ce n'est pas très original, un buisson qui brûle dans le désert. Il fait très chaud et il y a des buissons qui brûlent. Ce n'est pas une catastrophe d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de buissons, c'est pas comme quand il y a les forêts qui brûlent dans le sud de la France ou en Corse, hein, et où ça. Non, là vous avez un, deux, trois buissons qui brûlent, et puis ça s'arrête, parce qu'il y a surtout des cailloux. Là, ce qui est très curieux pour Moïse, c'est que le buisson il brûle, mais il ne se consume pas. Autrement dit, le buisson il brûle et il brûle encore. Ça ne s'arrête jamais de brûler, ça ne se consume pas. Il regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Le texte nous dit dévoré. Vous voyez, le buisson est dévoré, il n'y a plus de buisson. Mais non, là, ça continue à brûler. Alors Moïse s'étonne. Et il dit, il se dit en lui-même, je vais aller voir de plus près. Il dit, je vais faire un détour pour mieux voir ce qui se passe. Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Il va essayer de comprendre. Quand il y a quelque chose d'extraordinaire, on essaie d'en savoir plus. On va se renseigner auprès de ceux qui savent. Ou bien on va soi-même voir de plus près. Et donc, il s'approche. Et à ce moment-là, il entend une voix qui vient du milieu du buisson. Donc, il entend quelque chose, il comprend quelque chose. C'est Dieu qui lui parle et qui lui dit « Quitte tes sandales. Retire tes sandales. N'approche pas. Car le sol sur lequel tu es est une terre sainte. » Donc, Dieu lui dit, voilà, attention, tu n'es pas n'importe où. En fait, quand on réfléchit sur le texte, qu'on essaie de comprendre le texte, on peut penser que Moïse se trouve sur l'emplacement d'un sanctuaire. Et que tout l'espace, là, est un espace d'un sanctuaire, et on n'entre pas dans un sanctuaire n'importe comment, on entre dans le sanctuaire en se déchaussant. Vous savez qu'encore aujourd'hui, on se déchausse quand on entre dans une mosquée. Ce n'est pas le cas pour une église, mais ça pourrait être le cas. Mais ce n'est pas le cas dans une église, mais c'est le cas dans une mosquée, on se déchausse. C'est le signe que, voilà, on n'entre pas avec ce qui est souillé par le sol de l'extérieur. Voilà. On entre tel qu'on est, simplement avec son corps. Et donc voilà ce que dit Moïse, voilà ce que dit Dieu. Et puis, Dieu va un peu plus loin. Moïse, il n'a rien demandé. Hein. Vous vous rappelez l'histoire. Il a fui l'Égypte parce qu'il a tué un Égyptien. Il se marie, il a un enfant, il devient berger, et puis voilà. Il ne demande rien. Et là, Dieu lui dit, « J'ai vu la misère de mon peuple. » J'ai vu la misère de mon peuple. Et je vais descendre pour le libérer. Bon, c'est une bonne information. Mais ça va plus loin. Dieu dit, je te demande à toi, Moïse, d'aller voir Pharaon. Je te demande d'aller voir Pharaon et de conduire mon peuple en dehors de l'Égypte. Autrement dit, de prendre la tête du peuple et puis de les faire quitter l'Égypte, de les libérer. Vous voyez, vous avez un berger, bien joli, mais oui, comment il va faire? Alors Moïse, il n'est pas très content de ça. Il s'adresse à Dieu et il lui dit, mais c'est bien joli ça, mais quand je vais aller voir les fils d'Israël pour leur dire que je veux les libérer, ils vont me dire, mais tu viens de la part de qui? Hein? Tu viens de la part de qui? Parce que c'est bien, il a l'impression d'entendre Dieu, mais c'est qui? C'est quoi cette voix? À l'intérieur de lui, il sent quelque chose, mais c'est quoi? C'est de l'illusion? Il rêve? Hein? Il est en train de dormir et il rêve? Oui, Moïse, il ne sait plus trop où il est. Donc il dit à Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire? Et Dieu lui dit, je suis qui je serai. Je suis qui je serai. Dieu donne son nom, je suis qui je serai. C'est curieux comme nom, hein, je suis qui je serai. Ça veut dire, traduisez, je suis celui que demain je serai celui que vous verrez demain. Autrement dit, le libérateur que demain je serai pour le peuple, eh bien c'est moi. Je suis qui je serai. Mais voilà, il y a aussi une autre traduction qui dit « je suis qui je suis ». Peu importe, c'est difficile à comprendre ce que ça veut dire.
Il s'adapte à demain, quoi.
C'est-à-dire que non, c'est... Oui, s'adapte à demain, on peut dire ça. Et c'est surtout, c'est... Tu comprendras qui je suis quand tu me verras demain. Hein? Et tu me verras demain par mon action, par mon acte de libération, quand j'aurai libéré mon peuple. Et alors, je termine par là. Moïse, il continue à dire, oui, mais enfin, tout ça, c'est pas très clair. Hein. Alors, Dieu dit, eh bien, je suis le Seigneur. Alors, je vais terminer avec, il y a peut-être un crayon. Terminer avec un crayon. Je suis le Seigneur. Alors là, c'est quelque chose d'important. Il y a non, mais ça va. Là, vous pouvez regarder là.
Exact.
Oui.
Ok.
Oui, oui. Bon. Vous pouvez regarder là. Alors, il y a. Je suis le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a quelque chose de très important. C'est-à-dire que Dieu donne un nom, mais sur lequel on ne peut pas mettre la main. Voilà le mot que va donner Dieu. YHWH. Et non, il n'y a pas d'E, il n'y a pas d'E, non. YHWH. C'est imprononçable. On ne peut pas prononcer.
Il n'y a pas de voyant.
Il n'y a pas de voyant.
C'est juste.
On ne peut pas prononcer. Donc, en hébreu, c'est quatre voyelles.
C'est quatre consonnes.
C'est quatre consonnes, excusez-moi, c'est quatre consonnes. En hébreu, c'est quatre consonnes. Qu'on peut traduire par YHWH, ce sont ces consonnes-là, en hébreu, et il n'y a pas de voyelle. C'est-à-dire que Dieu donne un nom, mais on ne peut pas le mettre en boîte de conserve.
Ah ouais.
C'est dans votre tête, dans notre cœur, nous avons tous une idée de Dieu. Se dire, ben Dieu c'est...
Oui.
Ben oui, mais Dieu c'est pas ça. Ben, c'est qui? C'est quelqu'un d'autre. Et une manière d'exprimer ça, c'est de dire, on ne peut pas le prononcer. Et du coup, comme il faut bien le lire, dans le texte de la Bible, il y a ces quatre consonnes qu'on ne peut pas prononcer. Alors, quand on lit en hébreu et qu'on voit ces quatre consonnes, à ce moment-là, on dit autre chose, on dit... Adonai, qui est aussi en hébreu. Adonai, ça veut dire monsieur. En hébreu aujourd'hui, si on dit Adoni, ça veut dire monsieur, comme monsieur, monsieur. Donc Adonai, c'est Seigneur, le Seigneur. Le monsieur en français, c'est mon Seigneur. C'est ça que veut dire monsieur. Monsieur, c'est mon Seigneur. Donc Adonai, c'est mon Seigneur, équivalent de monsieur, Adonai, le Seigneur.
Oui.
Et donc, quand on dit le Seigneur, on dit, ben, c'est ça que je veux dire, mais je ne sais pas qui c'est ça. Donc c'est une manière de dire, je m'adresse à Dieu, mais je ne sais pas qui c'est Dieu.
Oui.
Oui, parce que le danger toujours, c'est... de mettre Dieu dans une boîte de conserve. Ah ben, je sais qui c'est. Voilà. Dieu, c'est... Il est beau, il est grand, il est fort, il est puissant, il sait tout, il peut tout faire. Non. Dieu, je ne sais pas. Donc, YHWH. Et cette révélation, elle est faite à Moïse. Je suis qui? Je suis YHWH. Je suis quelqu'un
que dont on ne peut rien dire. Mais pour qu'on puisse parler de lui, alors on dit Adonai, le Seigneur. Voilà. Donc, c'est, je vais terminer sur ce point sur lequel on reviendra parce que, évidemment, c'est quelque chose de capital puisque tout le Premier Testament, tout l'Ancien Testament, évidemment, et c'est ça qu'on veut essayer de comprendre à travers tout ce parcours, c'est que le Premier Testament ou l'Ancien Testament, c'est une révélation de qui est Dieu pour son peuple. Et qui est Dieu ? Eh bien, c'est le Créateur. Qui est Dieu ? C'est celui qui fait miséricorde même aux meurtriers. Qui est Dieu ? C'est celui qui protège malgré le mal de l'homme. Qui est Dieu ? C'est celui qui appelle Abraham et qui promet une descendance. Qui est Dieu ? C'est celui qui sauve son peuple à travers, par l'intermédiaire de Moïse. Et voilà.
Oui, il y a beaucoup
Attends, répète ce que tu veux dire. Oui.